Maintenant, nous verrons comment apparaissent les taches brunes sur le visage, comment les corriger et les prévenir.
RTL. Vous écoutez RTL, il est presque 20h. Les informations vous sont présentées par Gaëlle Jordana.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Prudence sur la route ce soir en Île-de-France. Ça bouchonne pas mal aux abords de Paris. 130 km d'embouteillage. Bison Futé avait vu orange avec la fin des vacances pour la zone C. Il y a aussi le match PSG-Lyon au Parc des Princes à 21h. Et en plus, l'autoroute A13 est toujours fermée dans le secteur de Saint-Cloud à cause d'importantes fissures sur la chaussée. La 13 devrait rester fermée au moins jusqu'à demain. Notez qu'une manifestation s'est tenue à Toulouse contre le chantier de l'A69 entre 1500 et 5000 militants d'associations écologistes, notamment, protestent contre cette route qui doit relier Castres à la Ville Rose. Arrêtons les dégâts, vive le bus, le train, le vélo, pouvait-on lire sur certaines pancartes. Écoutez Geoffrey, venu avec ses deux enfants.
Ce projet d'A69, il est clairement emblématique de ces projets qu'il faut absolument arrêter. Et on voit qu'il est né de connivence publique-privée. Nous, on a des enfants, on ne peut pas les regarder dans les yeux en disant « on ne fait rien pour vous ».
Des propos recueillis par Patrick Tégéraud. À Blois, une enquête est ouverte après la mort d'une jeune femme de 27 ans. Elle a été éjectée d'un manège hier soir lors d'une fête foraine. Évacuée vers l'hôpital, elle n'a pas survécu à ses blessures. Deux infos à l'étranger, au Proche-Orient. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, promet d'accroître la pression militaire, je cite, sur le Hamas dans les prochains jours. Israël a continué de bombarder la bande de Gaza en ce dimanche, notamment la ville de Rafah. Et puis la marine ukrainienne affirme avoir touché un navire russe en mer Noire, dans la péninsule de Crimée, annexée par Moscou. La défense ukrainienne précise que ce navire n'est plus capable d'accomplir ses tâches. Demain, lundi, dès 7h, RTL Matin sera en direct de Marseille. Amandine Bégaud, Philippe Cabrivière, Louis Baudin seront près du Vieux-Port. Au menu, des reportages et des rencontres avec les Marseillais. Le foot, suite et fin de la 30e journée de Ligue 1. Pour l'instant, Marseille mène 1-0 à Toulouse. But de Onana, c'est bientôt la mi-temps. Les autres matchs, la très mauvaise opération de Brest sur son terrain. Les Bretons se sont inclinés 2-0 face à Monaco. Les Monégasques s'emparent de la 2e place et les Brestois redescendent à la 3e. Lille l'emporte 1-0 face à Strasbourg. Reims perd 2-1 sur son terrain contre Montpellier. Défaite du Havre à domicile 1-0 face à Metz. Énorme choc, on l'a dit ce soir à 21h, PSG Lyon. Un mot de cyclisme, Tadej Pogacar a remporté son 2e Liège-Bastogne-Liège après un raid solitaire de 35 km. Le Slovène de 25 ans devance de plus d'une minute le Français Romain Bardet et le Néerlandais Mathieu Van Der Poel. Un aperçu de votre météo demain matin, cela va rester hivernal avec de nombreuses gelées du sud-ouest au centre jusqu'au nord du pays. Un joli soleil tout de même dans l'ouest de l'Hexagone, mais les nuages s'imposeront dans l'Est. Il est quasiment 20h03 sur RTL. Eric, c'est à vous et RTL Foot.
Merci beaucoup Gaël et restez bien avec nous parce que la soirée s'annonce longue et passionnante. Oui. Vous parlez de l'OM qui a pris l'avantage à Toulouse. Toulouse vient d'égaliser juste avant la mi-temps pendant votre météo. Je vous dis qu'on va vivre une soirée de dingue.
Ça va être fou.
Restez bien avec nous, à tout de suite pour RTL Foot.
RTL. Suivez votre soirée foot sur RTL avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RTL.
Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, dans RTL Matin.
Demain, on va parler de la première ville de l'histoire de France. La source, la matrice originelle, Marseille.
Entrez dans l'histoire, la quotidienne, avec Laurent Deutsch, tous les jours à 7h20.
À demain.
On en parle.
La complémentaire santé solidaire vous aide à payer vos dépenses de santé. On en parle dans un instant avec Fanny Richard de l'assurance maladie.
RTL Foot,
c'est jusqu'à 23h.
Présenté par Eric Silvestro.
Quel plaisir de partager cette fin de semaine, ce dimanche soir à votre compagnie, vous accompagner jusqu'à 23h. Vous avez peut-être entendu des petits bruits bizarres sur le générique parce que tout le monde est tellement heureux d'être là qu'il y a Xavier Domer qui sifflote tranquillement avec le générique. Bonsoir mon Xavier.
Salut Eric, bonsoir à toutes et à tous.
Et puis on a Baptiste Durieux qui était absent depuis quelques jours, qui revient avec nous. On est ravis de le retrouver.
On est
un peu jaloux de son bronzage, il faut être honnête.
Complètement.
Qui lui a oublié du coup que quand la lumière rouge s'allume, on ne parlait pas.
J'ai tout oublié. Faut tout réapprendre.
C'est le retour, Baptiste. C'est fini, le bronzage, le soleil, les cocktails, tout ça.
C'est vrai. Non, mais il y a les projecteurs du studio qui me apportent un peu de vitamine D encore. Donc,
mais
tout
bon,
va bien.
Vous revenez avec plein d'amour, c'est écrit sur votre sweatshirt.
Tout à
love.
Fait.
En rose et blanc, c'est magnifique. On est ravis de vous avoir avec nous. Baptiste, vous allez notamment nous compter la mi-temps, la première mi-temps entre Toulouse et Marseille. On est un partout. Hein.
Exactement. Ouverture du score de Jean Onana pour l'Olympique de Marseille à la 38e, d'une belle tête. Et c'est une tête également du côté du TFC de Nicolas Hyssen qui a permis aux Toulousains d'égaliser. Un partout, donc, c'est la mi-temps entre Toulouse et Marseille.
L'OM avec une équipe extrêmement remodelée. On va y revenir après l'exploit en quart de finale de la Ligue Europe. L'OM qui jouera contre l'Atalanta, sa place en finale. Un autre club français disputera, lui, les demi-finales de la Ligue des Champions. C'est évidemment le Paris Saint-Germain qui sera l'hôte ce soir de Lyon au Parc des Princes avec Nicolas Georgerot au commentaire. Bonsoir, mon Nico.
Bonsoir, Eric. Bonsoir à tous.
Coup d'envoi exceptionnel, non pas à 20h45 comme d'ordinaire dimanche, mais bien à 21h.
Hein. Oui, parce qu'il y a cette programmation, effectivement, avec plusieurs matchs qui sont multipliés tout l'après-midi, mais de 15h à maintenant. Mais il y a failli y avoir un décalage du coup d'envoi à 21h15 en raison du diffuseur, mais l'horaire restera à 21h pour le coup d'envoi de ce PSG Lyon.
On va découvrir évidemment les compos parisiennes et lyonnaises pour ce choc. Donc un choc, il y en avait un cet après-midi également au stade Francis Leblay dans la lutte pour la Ligue des Champions et notamment pour la deuxième place. Brest accueillait Monaco et c'est Monaco qui s'est imposé 2-0 en terre bretonne avec des buts de Zakaria et Minamino. Beaucoup d'échauffourées, beaucoup de décisions arbitrales encore contestées. On le craignait, ça est encore arrivé. Les Brestois vont sans doute s'estimer lésés. Y avait-il sentiment à se sentir lésé? On en parle avec Philippe Audouin qui était au stade pour nous dans quelques minutes. En tout cas, Monaco fait la bonne opération et s'empare de la deuxième place. Lille se rapproche également de Brest pour la place directement qualificative après son succès contre Strasbourg. Monaco qui a aussi eu 2 cartons rouges. On en reparlera, ça peut avoir son influence pour la suite et la fin de la saison. À noter que Metz n'est plus ni relégable ni barragiste après son succès au Havre. Le Havre qui plonge à cette place de barragiste 1-0. Victoire de Montpellier qui se donne de l'air 2-1 à Reims. Reims qui dit sans doute adieu à ses espoirs d'Europe. Bref, énormément de choses dans le replay des matchs de l'après-midi. Et puis après le coup d'envoi de PSG Lyon, nous suivrons également d'un œil très attentif le Classico entre le Real et Barcelone en Espagne. Le Real toujours qualifié également en demi-finale de la Ligue des Champions et qui peut faire un pas décisif vers le titre. On note simplement, Xavier Domergalan, que l'équipe du Bayer Leverkusen, championne d'Allemagne, championne en Bundesliga,
insubmersible,
continue de maintenir son invincibilité et toujours un petit peu à l'arraché. Hein.
C'est incroyable parce que ça se confirme match après match. Ça a été le cas également cette semaine en Ligue Europa avec West Ham qui était pas loin de les faire tomber. Et finalement, ils se sont accrochés jusqu'au bout et c'est le cas face au Borussia Dortmund. C'était l'un des chocs de ce beau dimanche de football. Dortmund, Bayer Leverkusen, un but partout. 90 plus 7 pour l'égalisation du Bayer.
Et pour être tout à fait complet dans ce sommaire d'émission extrêmement long, ça c'est que Manchester United a rejoint Manchester City en finale de la FA Cup.
Non, sans mal.
Dans un match complètement dingue face à Coventry, ils menaient 3-0, les Red Devils. Ils se sont fait rejoindre à 3 partout. En prolongation, Coventry a marqué à la 120e minute un but qui a été refusé pour hors-jeu d'un demi-millimètre. Et finalement, c'est au tir au but que United s'est qualifié. C'est complètement fou. Liverpool, de son côté, a gagné comme Arsenal et donc repassé devant City en Premier League. Je vous dis qu'on va vivre une fin de saison de foot absolument dingue. Tout ça en attendant l'Euro, évidemment, en Allemagne et les Jeux Olympiques, je vous en parle même pas. Soyez les bienvenus, RTL Foot 20h-23h.
Éric Silvestro, RTL Foot jusqu'à 23h.
Avant de découvrir les compos de PSG Lyon, un petit point donc sur cette première mi-temps entre Toulouse et Marseille. Un but partout pour l'instant. Marseille qui avait pris l'avantage, Toulouse qui a égalisé. Marseille plutôt à son avantage avec une équipe, voilà, raconte-nous Baptiste, qui est extrêmement remaniée, notamment défensivement.
Un petit peu, on a Paulo Lopez néanmoins dans les buts, qui d'ailleurs est pas forcément innocent sur la sortie et sur l'égalisation toulousaine avec ce but de Nicolas Hyssen. Mais effectivement, Pape Gay et Balerdi avec Murillo et Garcia qui sont en défense hein, par rapport à l'animation. On a Onana, Unai et Jordan Veretout qui sont dans l'entrejeu, et puis Correa qui est en numéro 9 ce soir avec Pierre-Emerick Aubameyang et Luis Enrique également titulaire dans cette équipe de Marseille qui a besoin de points hein. C'est quand même 3 défaites sur les 3 derniers matchs de Ligue 1 pour Marseille, à cette euphorie évidemment avec sa demi-finale d'Europa League, mais en championnat c'est quand même compliqué. 10e pour l'instant l'Olympique de Marseille, Toulouse est juste derrière, donc il y a une vraie pression, un vrai impératif de résultat pour l'OM ce soir, il faudra appeler en Ligue 1.
Et on rappelle en plus des blessés hein, qui datent et qui sont vraiment gênants, on pense notamment au Piston, Quentin Merlin et Jonathan Clauss pause depuis maintenant plusieurs semaines. Ismaïla Sarr également dans le secteur offensif. Mamo Meite sont venus s'ajouter quand même aujourd'hui les suspensions de Gigot qui était revenu de blessure et d'Amin Harit. Rechute de Chancel Mbemba également dans ce match face à Benfica cette semaine. Je veux dire, là, c'est vraiment du bricolage. Hein. Quand on regarde l'équipe mise en place par Jean-Louis Gasset, Murillo, il est revenu de blessure. Il a joué également jeudi. Ça faisait 3 mois qu'il a été opéré des adducteurs. On a lancé une fin de saison. Finalement, ça s'est remis plus vite que prévu. Ça s'est plutôt bien consolidé. Il est revenu. Là, il est titulaire. Je sais pas combien de temps il va pouvoir tenir, mais Balerdi, Ulysse Garcia, Pape Gay, qui joue dans un rôle complètement différent. Correa, titulaire, qui l'eût cru. Je veux dire, c'est quand même affolant.
Mais c'est dans la tête. C'est une série. Là, on a l'impression qu'ils sont repartis sur une série.
Mais c'est que
là où on les attendait pas.
De toute façon, la première série, c'était 5 victoires pour les 5 premiers matchs de Jean-Louis Gasset. Derrière, la deuxième,
5 défaites.
Beaucoup plus négative, 5 défaites de suite. Et là, il y a une victoire qui s'est réenclenchée. Et on est très heureux pour l'Olympique de Marseille sur la scène européenne cette semaine. Maintenant, il faut confirmer à Toulouse. Toulouse est accrocheur. Hein. Toulouse, ils sont bien en ce moment. Hein. Donc, c'est une équipe qui peut poser beaucoup de problèmes.
Mais intéressant, moi, j'ai trouvé cette équipe de Marseille en première mi-temps.
Tout à fait.
Oui.
Et effectivement, au vu de la composition, on pourrait avoir de sérieux doutes, mais ils sont entreprenants, les Marseillais. Il y a du jeu, il y a de bonnes choses. Il y a un partout à la mi-temps. Pour l'instant, c'est dans les faits. D'ailleurs, Marseille n'est pas 10e et 9e hein, virtuellement au classement. J'ai fait une petite erreur et Toulouse est bien 11e. Mais effectivement, 40 points pour Marseille, c'est 6 points de moins que Lens qui est 6e. Et quand on sait qu'on est quand même vers la fin de ce championnat, il y a vraiment urgence, d'un point de vue comptable.
Jusque l'Europe, rappelons quand même que c'est une vraie parenthèse et un vrai rêve européen cette saison pour l'Olympique de Marseille, très clairement. Hein, c'est la bouée de sauvetage, c'est un oxygène incroyable.
Finalement, t'es à 3 matchs avec des champions.
Ouais, mais tu t'imagines.
On en rigole.
Baptiste vient de le dire, t'es 10e en Ligue 1.
Ah ouais, mais...
Non, mais ça, c'est quand même problématique. Je veux dire, au cœur de la saison marseillaise, qui est quand même très difficile, où t'as eu 4 entraîneurs qui se sont succédés, si l'on ajoute à Bardonado le temps de quelques heures.
Bien sûr.
Mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que là, ça devient quasi vital que l'OM gagne sa double confrontation contre l'Atalanta et en finale, et gagne la Ligue Europa pour espérer jouer la Coupe d'Europe la saison prochaine.
Ce qui est possible.
Il y a du chemin.
Bien sûr, il y a
Atalanta, attention, il y a de la qualité. Et bon, à la fin, on sait, Roma, Bayer Leverkusen, il va falloir en faire tomber l'un des deux, hein, quand même.
Donc. Ouais, mais les deux plus gros, c'est comme le PSG, les deux plus gros s'affrontent de l'autre côté.
Ouais,
et alors, je dis pas que l'Atalanta, attention, l'Atalanta a sorti Liverpool, mais avec un non-match quand même de Liverpool à l'aller. Et tu te retrouves quand même avec le passage le plus facile. Rien n'est facile à ce niveau-là. Mais tu dis, bon, les gros s'affrontent de l'autre côté. Et moi, si j'arrive à me frayer un chemin, pourquoi pas.
Moi, ce qui me gênerait, c'est que l'OM perde, se fasse éliminer contre une équipe qui a en numéro 9 Scamacca. Ouais, ça quand même
qui n'a rien demandé à personne, franchement, c'est dégueulasse.
C'est voilà, petite attaque, c'est le petit tacle de Xavier, voilà, tranquillou. 20h12, voilà pour l'OM, on attend la reprise de la seconde période à Toulouse. Direction donc le Parc des Princes pour notre choc du soir qui débutera tout à l'heure à 21h, Paris-Saint-Germain-Lyon. Alors choc, parce que ce sont deux très grands noms du foot français, les deux clubs qui ont dominé les dernières décennies, même si Lyon, ça remonte un petit peu. On sait qu'il y a un peu d'animosité entre les deux clubs et puis il y a cette remontada lyonnaise au classement absolument exceptionnelle, Paris qui peut se rapprocher un peu plus du titre. Donc ce sera un grand match, Nicolas Jorgerot. Qui dit grand match dit équipe type ou Luis Enrique ne pense déjà qu'à la Ligue des Champions et à cette demi-finale.
Ça fait tourner, tourner parce qu'on vient d'avoir la composition officielle du Paris Saint-Germain et je vais vous la donner avec Donnarumma dans le but, une défense avec Hakimi, Marquinhos, Danilo et Beraldo. Au milieu de terrain, Vitinha, Zaïre Emery et Asensio. Et les trois de devant, Barcola, qui avait d'ailleurs marqué lors de la victoire lyonnaise la saison dernière ici au Parc des Princes et qui est dans les rangs adverses ce soir. Donc Barcola, Colomouani et Ramos. Donc pas de Kylian Mbappé ni de Dembélé dans le 11 titulaire concocté par Luis Enrique. Donc évidemment, on fait tourner. Il y a le match à Lorient en milieu de semaine. Il y aura le PSG Le Havre la semaine prochaine avant d'aborder la demi-finale de Ligue des Champions. Et on peut penser que par exemple, pour certains titulaires face à Dortmund, il y aura pas mal de minutes à Lorient en milieu de semaine parce qu'on restera à une semaine de cette demi-finale aller de Ligue des Champions. Mais pareil pour le PSG Le Havre, il y aura sans doute pas mal de rotation dans l'équipe de Luis Enrique. Donc ça c'est pour le 11 parisien.
Attends, je me tourne juste vers Baptiste et Xavier avant qu'on découvre le 11 lyonnais. Autant parfois je comprends pas tous les choix de Luis Enrique, autant là ça semble logique, l'enchaînement des matchs, cette demi-finale qui arrive. Comme l'a dit Nico, il y a un match à Lorient mercredi où tu peux faire jouer les cadres toutes les semaines. Ça semble assez logique.
Oh, plutôt cohérent, oui, dans la gestion d'effectifs qu'apprécie particulièrement Luis Enrique, parce qu'on le sait, hein, c'est une manière aussi de faire en sorte que tout le monde se sente concerné. C'est le cas depuis plusieurs semaines. Moi, je trouve ça plutôt logique. Il y a une seule chose qui m'interpelle un petit peu, et Nico nous le confirmera quand il y aura la mise en place, mais Beraldo, il a fait un match catastrophique à l'aller contre le Barça. On est d'accord.
Ah oui, il y a assez
absent,
de match, on peut résumer ça comme ça. Oui.
Absent lors du match retour, on le sait aussi. Là, il va le faire jouer latéral gauche. Alors qu'au début, quand il est arrivé, quand il a joué à gauche, ça a été un naufrage. Donc moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que Beraldo, dans l'axe, il est meilleur. Là, il sort d'un match difficile. C'est quand même un peu empoisonné comme cadeau de lui dire allez, je te relance, mais je te refais jouer couloir gauche.
Nuno Mendes n'est pas dans le groupe.
Ouais.
Et donc. Avec la logique de faire tourner et avec Lucas Hernandez qui avait joué.
Il est suspendu, oui, bien sûr.
Donc voilà, du coup, forcément.
Pas énormément de choix.
Après, voilà, c'est pas un animateur de centre de loisirs, Luis Enrique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fait avec ce qu'il a. C'est vrai que Beraldo a été très bon dans l'axe en plus, mais effectivement, au vu de la. Alors, Nuno Mendes, d'ailleurs, tout va bien. C'est plus un forfait de précaution, je sais pas comment on peut appeler ça.
Oui, mais lui aussi revient, n'oublie pas de longues blessures.
Exactement.
Et tu peux pas enchaîner tous les matchs non plus.
Mais
forcément, contre-coup.
Pour le coup, sa gestion, elle est intelligente, puis elle est cohérente aussi. Moi, très content, par exemple, de voir Gonçalo Ramos, qui n'est pas un titulaire, mais qui, en tout cas, quand on fait appel à lui, est plutôt efficace et décisif de voir titulaire. Colo Moigno aussi, qui traverse une saison qui est extrêmement difficile et qu'on a aussi besoin de voir comme ça en tant que titulaire sur un gros match.
Il y a 170 millions qui sortent du banc là quand même, hein, mine de rien. Donc.
Ça fait un paquet d'argent effectivement.
On est là, hein.
Ça pèse.
Ouais, ça pèse, exactement. Bon, le 11 lyonnais, du côté de Lyon, par contre.
Offensif.
Ah,
offensif, puisque je vous donne les 4 devant. Cherki qui sera titulaire et dans un rôle axial en soutien de Lacazette avec Nouama et Benrahma. Donc ça c'est pour la partie offensive concoctée par Pierre Sage, Cacré, Matic plutôt dans un rôle défensif évidemment, Lopez dans le but, Lopez qui fait son 499e match chez les pros en comptant la sélection et le club. Maitland-Niles à droite de la défense, O'Brien, Caleta-Cher pour la charnière centrale et Enrique à gauche, en rappelant que Tagliafico est suspendu. Donc voilà pour le 11 lyonnais qui vient avec beaucoup d'ambition suivant le résultat de Marseille ce soir. L'OL au coup d'envoi sera 8e ou 9e à 5 points de la 6e place, et donc il y aura peut-être une ou deux équipes juste devant les Lyonnais. Donc c'est pas une victoire impérative, mais perdre serait quand même préjudiciable pour les Lyonnais dans la dernière ligne droite.
Qui reste, on l'a dit, hein, sur une série extraordinaire depuis début février. Ils ont pris 25 points sur 30 possibles.
C'est-à-dire une défaite en 13 matchs, toute compétition
confondue. C'est quand même assez exceptionnel. Nico, tu parlais de victoire quasi impérative, c'est vrai. Alors, dans la course à l'Europe, même si ils en étaient tellement loin il y a encore plusieurs semaines, mais Pierre Sage fait un vrai choix aujourd'hui, parce qu'il avait annoncé déjà à plusieurs reprises qu'il ne voulait pas forcément débuter les matchs avec Cherki, ou plutôt dans une animation en 4-2-3-1, parce qu'il tient beaucoup à son 4-3-3, à avoir vraiment trois joueurs à vocation défensive pour travailler dans le cœur du jeu. Là, c'est un vrai choix offensif. Il décide de basculer dès l'entame du match dans ce système-là et de mettre Cherki dans son rôle préférentiel, dans son rôle d'électron libre en soutien de Lacazette.
Et qui a fait de bonnes entrées récemment. Et c'est vrai que pour Lyon, le résultat de Toulouse-Marseille est extrêmement important, parce que suivant ce résultat, ça fait une équipe supplémentaire à doubler. Et le calendrier lyonnais, c'est la moitié du calendrier du Paris Saint-Germain d'ici la fin de saison. Il n'y a plus que 5 rencontres en comptant la finale de Coupe de France. Et autrement dit, avoir deux équipes à doubler dans la dernière ligne droite, plus qu'une question de points, c'est pas toujours évident. Donc si les Lyonnais doivent prier pour que les Marseillais restent à ce score-là, voire soient battus par les Toulousains ce soir.
Bon, on va essayer de profiter de ce grand match qu'on espère spectaculaire. Cherki, c'est un vrai pari, mais avec le PSG, on sait que c'est un club qui parfois l'a aussi un peu dragué. Et puis il y a Barcola, et puis Cherki, il aime bien justement les matchs comme ça. Donc c'est un coup que tente Pierre Sage. Ça me choque pas, moi.
Mais bien sûr, puis en plus, Cherki, il est très proche d'Mbappé. D'ailleurs, c'est la maman de Kylian Mbappé et l'agent de Ryan Cherki. Donc ça va être un match assez important pour lui. Puis c'est un joueur qui aime se montrer et qui est capable, malgré son irrégularité, de faire des partitions magnifiques, Ryan Cherki.
Paris Saint-Germain-Lyon, ce sera évidemment plein au parc, Nicolas, malgré les problèmes sur la 13, malgré la fin des vacances, malgré tout ça.
En tout cas, c'est annoncé comme tel. Donc, normalement, oui, pour un stade qui a un taux de remplissage à 97 ou 98%, même si c'est la fin des vacances dans la zone de Paris. Mais oui, normalement, ce sera plein. Et c'est toujours une affiche, de toute façon, qui est très suivi, qui fait partie des grands classiques au Parc des Princes, avec toujours les Lyonnais qui font un grand match au Parc des Princes.
Je peux vous dire que c'est un grand match, parce que même Isabelle Langer, qui était encore à ce micro, assis à ma place il y a quelques dizaines de minutes, ce soir sera au Parc des Princes.
Assise à côté de Nasser Alech.
Peut-être pas quand même.
Mais... Le chef du service des sports est déjà arrivé aussi au Parc des Princes.
Ah.
Il y a beaucoup de gens de RTL présents au Parc des Princes.
Eh bien, vous avez bien raison, c'est l'endroit où il faut être ce soir, à l'écoute de RTL évidemment. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'être au Parc des Princes, nous allons parier sur ce PSG Lyon.
Maintenant, 100% prono avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Et il faut gagner ce soir, ça serait bien. Tiens, pour terminer les vacances parisiennes, et puis pour ceux qui sont plus en vacances ou qui commencent leurs vacances, eh bien c'est pas plus mal aussi, de faire un petit billet, ça peut être intéressant. Je vous donne les cotes, 1,46 la victoire du PSG, 10 euros de misé, 14,60 euros de gagné. 4,90 le match nul, 10 euros de misé, 49 euros de gagné. Et 6 la victoire lyonnaise, 10 euros de misé, 60 euros de gagné. Voilà pour les cotes sèches, simples, de la victoire du nul et de la défaite du PSG à domicile. Quelles sont les cotes de nos consultants, de nos spécialistes? On va commencer avec Xavier Domer.
Alors je suis parti sur une victoire du Paris Saint-Germain. La cote n'est pas forcément très importante, mais vous allez voir qu'elle grimpe quand même assez, de manière assez significative. Donc victoire du PSG, là je suis un peu inquiet, même s'il peut faire la différence en entrant. Mais
ah, t'as mis Mbappé buteur.
Non, pas Mbappé, mais j'avais mis un joueur qui reste sur deux buts sur les deux derniers matchs, et c'est assez rare. Je trouve qu'il est plutôt en forme, il fonctionne en série aussi. Ousmane Dembélé. En buteur sûr. Voilà, au moment où j'ai effectué tout cela, je le garde. Score exact multichance, 2-1 ou 3-1 pour le Paris Saint-Germain. Et puis la petite subtilité qu'on aime, le match nul à la mi-temps, ça nous fait une cote de 36.
36, très bien. Baptiste.
J'ai une cote de 20 qui est un peu moins élevée. Je vois la victoire lyonnaise ce soir. Lyon a évidemment tout à gagner. Ça me fait mal de dire ça parce que c'est pareil, mais Paris a rien à perdre concrètement. Et on sait que les PSG Lyon souvent ont tourné en la faveur de l'Olympique Lyonnais. Un peu moins récemment, mais en tout cas, ils sont capables de sortir un grand match. Donc Lyon qui s'impose. Score exact multichance, victoire 1-0 ou 2-1. En buteur, je mets Alexandre Lacazette et je vois également l'Olympique Lyonnais qui ouvre le score ce soir. Ça fait une cote de 20, 10 euros de misé, 200 euros de gagné.
Et bien voilà pour les cotes du soir, 36 pour Xavier, 20 pour Baptiste.
Retrouvez les paris sportifs sur RTL avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
La seconde période de Toulouse Olympique de Marseille, c'est reparti depuis 2 minutes. Un but partout pour l'instant. Le replay des matchs de l'après-midi et notamment de la victoire de Monaco à Brest 2-0. C'est juste après la pub, ne bougez pas, c'est RTL Foot.
Eric Silvestro,
RTL Foot.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie, RTL.
Tout savoir sur les taches brunes avec les laboratoires Vichy. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Vous êtes pharmacienne conseil pour les laboratoires Vichy. Alors à quoi sont dues les taches qui apparaissent sur le visage?
Eh bien c'est dû à la mélanogénèse, un processus naturel qui s'accélère avec l'âge et le soleil.
Et on peut corriger ces taches?
Oui, et même les prévenir avec le protocole Lift Active B3 des laboratoires Vichy.
Comment?
D'abord, on applique le sérum Lift Active B3. Ensuite, la crème B3 jours SPF 50 pour protéger la peau des UV.
D'accord. Quels sont les effets?
Eh bien, après 2 mois d'utilisation, les taches diminue de 65% en moyenne.
Super.
Et en plus, les laboratoires Vichy innovent avec la crème nuit Lift Active B3 anti-tache qui est enrichie en niacinamide et rétinol pur.
Mm-hmm.
Résultat, au réveil, l'hyperpigmentation est corrigée et la peau est visiblement plus éclatante.
Parfait. Et où trouve-t-on Lift Active B3 anti-tache?
En pharmacie, parapharmacie et sur vichy.fr.
Merci Fanny.
Étude clinique, mesure de la surface des taches brunes, 35 femmes, 2 mois.
RTL Foot.
Présenté par Eric Silvestro.
Dans 37 minutes, le coup d'envoi de notre intégrale du soir entre Paris Saint-Germain et Lyon. Ça joue en ce moment en Ligue 1, Baptiste Durieux, entre Toulouse et Marseille. On est au début de la seconde période.
Exactement, avec une petite occasion de la part de Luis Enrique, l'attaquant marseillais titulaire aujourd'hui. Ça fait toujours un partout, en tout cas, entre donc Toulouse avec Nicolas Hyssen, buteur. Égalisation peu avant la mi-temps et l'ouverture de score pour Marseille de Jean Onana. 49 minutes de jeu au Stadium de Toulouse.
Et on va voir si l'OM arrive à remporter ce match et se relancer dans la course à l'Europe en Ligue 1, puisqu'on le sait, les Marseillais pour l'instant se focalisent également sur la demi-finale de Ligue Europe.
RTL Foot, le replay.
Antenne ouverte évidemment s'il y a un but entre Toulouse et Marseille. On va revenir sur les rencontres de l'après-midi dans le replay du dimanche soir. Monaco s'est imposé à Brest 2-0, victoire de Lille contre Strasbourg 1-0, de Metz au Havre 1-0 et de Montpellier à Reims 2-1. Au classement, c'est très important, Monaco prend la deuxième place avec 55 points devant Brest 53, Lille n'est plus qu'à un point également de Brest 52 et un match en moins à disputer face à Monaco, ce sera mercredi à Louis II. Et puis en bas du classement, la nouvelle c'est que Metz n'est plus ni relégable ni barragiste. Metz est 15e avec 29 points. C'est Le Havre qui est sur une mauvaise série qui devient barragiste avec 28 points.
Pour la première fois de la saison, on rappelle que les Havrais se retrouvent dans cette zone rouge.
Ouais, c'est terrible. C'est terrible.
Et les relégués pour l'instant sont Lorient et Clermont. Direction Brest, le stade Francis Leblé où nous attend Philippe Audouin. Bonsoir Philippe.
Salut Eric, bonsoir tout le monde.
Salut Philippe.
C'était
salut
le choc de cette 30e journée de Ligue 1 entre Brest 2e et Monaco 3e dans cette course à la Ligue des Champions aux places directement qualificatives. Lille avait mis la pression sur les deux équipes en s'imposant difficilement contre Strasbourg 1-0. Et c'est Monaco qui a eu le dernier mot dans ce match en s'imposant 2-0. Zakaria Minamino, on va beaucoup parler d'arbitrage, je le sais Philippe, dans ce débrief. Néanmoins, reconnaissons la solidité, ce qui n'a pas toujours été le point fort de Monaco cette saison, cet après-midi. Et une victoire qui, sur l'ensemble du match, notamment en seconde période, n'est peut-être pas si logique que ça.
Oui, il y a eu une première mi-temps extrêmement disputée, équilibrée, je dirais, mais avec très peu d'occasions. Pour Brest, il y a eu un tir de Satriano qui n'était pas cadré en première mi-temps. Pour Monaco, je n'avais pas noté l'occasion avant ce but de la 40e minute. Et là, c'est le talent qui a parlé, parce que Zakaria, excentré à l'entrée de la surface, il ouvre son pied, il marque, il trouve le filet, petit filet opposé de superbe manière. Et ce but, il est peut-être entaché d'une faute préalable sur le cardinal, le défenseur de Brest, avec Minamino qui arrive en retard et qui charge le défenseur de Brest. C'est pas ce qui provoque le but, mais s'il y a faute, il faut la siffler, et c'est là où Brest peut être un petit peu mécontent par rapport à l'arbitrage, sachant qu'un peu plus tôt il y avait une action litigieuse dans la surface de Monaco, mais a priori il n'y avait pas de pénalty, et Monaco a tué le suspense dès la troisième minute de la deuxième mi-temps avec un but marqué par Minamino. Et finalement, en deuxième mi-temps, on n'a plus vu grand-chose. On notera quand même les deux cartons rouges en temps additionnel côté monégasque de Benseguir et Singo. Et au final, Monaco fait une superbe opération.
Alors, je me tourne vers Baptiste et vers Xavier. Cette ouverture du score, en effet, de Zakaria, ce contact entre le cardinal et Minamino, c'est vrai qu'on peut siffler faute ou ne pas siffler. Je pense qu'il n'y aura personne qui sera d'accord sur ce coup-là. Monsieur Buquet et le VAR ont décidé qu'il n'y avait pas faute. Les Brestois peuvent s'estimer lésés, on ne va pas discuter de ça. Néanmoins, moi je retiens quand même que sur cette action, les Brestois ont deux ballons ensuite, parce que ce n'est pas la faute qui entraîne le but. Brest peut dégager le ballon à deux reprises, et Brest s'arrête de jouer. Ouais, Jonas Martin tente un grand pont dans sa surface et perd le ballon, et Zakaria marque derrière.
Et puis il y a un but, Eric, exceptionnel. C'est-à-dire que moi je veux bien qu'il y ait peut-être une faute au départ, mais ce que fait Zakaria derrière, le crochet long et puis la frappe, Philippe l'a très bien dit, c'est vraiment ce qu'il recherche. Il veut déposer ce ballon dans le petit filet opposé. Il le fait avec une classe immense. La frappe est lumineuse. Et bon, oui, je peux comprendre, moi, ce que là où ça me dérange un peu, je trouve que Brest trompe un petit peu de combat en ce moment dans cette dernière ligne droite, parce qu'ils se sentent lésés, et je l'entends. En revanche, dans ce match face à Lyon, qui a été entaché de beaucoup d'erreurs, notamment une faute de main d'O'Brien qui était très claire, que personne n'a semblé vouloir signaler à ce moment-là du match, ça peut changer beaucoup de choses. Brest a fourni énormément d'efforts derrière pour revenir et pour mener 3-1. Il y a le scénario catastrophe sur la fin de match où tu perds au bout d'une soirée folle, et là tu as encore des décisions qui tombent pas en ta faveur, mais je trouve que l'attitude n'est pas bonne, il faut essayer de dépasser ça. Et on a vu des Brestois très nerveux, on a vu des Brestois très, très énervés dans leur attitude, dans ce qui dégageait, alors que c'est une équipe qui devrait se réfugier dans le jeu parce qu'elle a tellement de qualité, elle a montré depuis le début de la saison.
Philippe, sentiment partagé au stade. Alors évidemment, les supporters, on l'a vu, très vite en première période, s'en sont pris aux décisions arbitrales, peut-être trop tôt d'ailleurs, j'en sais rien. On a eu l'impression qu'ils sont en effet un peu focalisés là-dessus au lieu de se focaliser sur le jeu. Je vous donne une stat quand même, Brest n'a cadré que deux tirs dans ce match, et moi j'ai pas retrouvé le Brest capable de mettre à mal, Philippe, n'importe quelle équipe de Ligue 1. Il y a eu quelques bonnes période en première mi-temps, mais Brest n'a presque pas beaucoup joué au ballon.
T'as raison, même si Philippe, juste avant, pardon, rappelons que sur le but qui est extraordinaire, le but de Zakaria, il y a une domination quand même brestoise avant.
À ce moment-là, oui, bien sûr.
T'es sur un temps fort brestois où il y a quelques situations où vraiment ils sont mieux.
Oui. Domination, le mot me semble un tout petit peu fort quand même sur la première mi-temps. Moi, j'ai juste en mémoire une séquence de possession magnifique juste avant le but de Zakaria. C'était à la 38e minute où les Brestois partent de leur moitié de terrain. Il y a une séquence de possession absolument magnifique avec du jeu court à 2 ou à 3. Ça se termine au final par un centre qui traverse la surface de réparation et qui est écarté au deuxième poteau par la défense de Monaco. Ça, c'est le Brest qu'on a vu cette saison et qu'on a effectivement pas beaucoup vu aujourd'hui. L'absence de Lesmenou, n'y est sans doute pas pour rien aussi quand on connaît l'influence qu'il a au milieu de terrain. Et d'accord aussi sur ce que tu dis, Eric, je trouve qu'il y a un sentiment de persécution à tort des Brestois qui dessert un petit peu, je dirais, les joueurs, parce qu'à un moment, il faut quand même se reconcentrer sur le jeu, sur le match, et pas se focaliser sur l'arbitrage.
On va y revenir justement sur ce sentiment un petit peu de persécution qui anime les Brestois en ce moment, sur le fait peut-être qu'ils n'ont pas livré leur meilleur match de la saison, mais que rien n'est fini, il reste 4 rencontres en contre. Et pour Monaco, évidemment, c'est la très bonne opération. Juste après la pub, on continue de parler de ce Brest-Monaco.
RTL Foot,
présenté par Eric Silvestro.
Tout savoir sur les élections européennes avec le gouvernement. Thomas, bonjour, vous avez interrogé un spécialiste de l'Union européenne. Alors pourquoi on vote exactement en juin prochain ?
Eh bien pour élire les 81 représentants français qui vont siéger pendant les 5 prochaines années au Parlement européen. C'est une élection à un tour et chaque liste qui obtient plus de 5% des suffrages se voit attribuer un nombre de sièges proportionnel à son score.
Et pourquoi c'est une élection importante ?
Parce que les députés européens travaillent à améliorer notre quotidien à travers des projets cofinancés ou en votant des lois comme celle sur la réduction des produits issus de filières qui contribuent à la déforestation.
Très bien, et on vote quand alors ?
Le 9 juin, ainsi que le 8 juin dans certains bureaux de vote des Outre-mer ou des consulats de la zone atlantique. Pour plus d'infos, rendez-vous sur elections.intérieur.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement. Tous les soirs dans RTL Bonsoir, retrouvez Marc-Antoine Lebray dans Lebray King News.
Je viens de demander au ministère de l'Intérieur de délivrer à monsieur le maire une OSDQ. Une obligation de se sortir les doigts du cul. 7 ans qu'il est à Bercy et la France se retrouve avec la même trésorerie que le coiffeur d'Éric Ciotti.
Lebray King News. Avec Marc-Antoine Lebray, c'est juste après le journal de 18h sur RTL. RTL Foot.
Avec Eric Silvestro.
20h31, nous sommes ensemble jusqu'à 23h ce soir avec Baptiste Durieux, avec Xavier Domergue, Nicolas Jean-Jaurès au Parc des Princes pour le coup d'envoi et l'intégralité de PSG Lyon à partir de 21h. Nous sommes avec Philippe Audouin pour le débrief de Brest-Monaco. Y a un match en ce moment en cours.
Tout à fait.
Pas d'intervention de Baptiste Durieux, donc pas de but entre Toulouse et Marseille, toujours un partout ?
Toujours un partout, effectivement, 57 minutes de jeu avec une légère domination marseillaise, mais il n'y a pas beaucoup d'occasions pour l'instant en seconde période. On a un seul tir du côté de Marseille notamment, mais c'est Toulouse qui a la possession du ballon, avec une occasion là juste à l'instant pour Marseille, mais Jordan Veretout était hors jeu. Toujours un partout, 57 minutes de jeu.
On revient à la victoire de Monaco à Brest, c'est le gros coup évidemment de l'après-midi, 2-0, les buts de Zakaria et Minamino. Écoutons la première action d'Éric Roy, l'entraîneur brestois qui a pris un carton jaune d'ailleurs dans le couloir à la mi-temps, justement parce qu'il était véhément envers l'arbitrage et ce but de Minamino, de Zakaria, pardon, on considère qu'il y avait une faute sur le cardinal. Écoutez Éric Roy au micro RTL de Philippe Audouin.
Avant la mi-temps, c'était un petit peu dur, je pense, d'être mené 1-0 sur notre production de la première période. Après, sur la deuxième mi-temps, on a manqué beaucoup de trop de choses et notamment de justesse technique pour pouvoir plus poser de problèmes à cette équipe. Et puis en plus, on rentre en deuxième période et on avait décidé beaucoup de choses, mais quand tu te fais sanctionner dès la reprise, c'est vrai que de 1-0 contre cette équipe de Monaco, qui est très solide, qui avait adapté en plus son système, puisqu'ils étaient repassés avec trois défenseurs centraux, ça veut dire qu'ils nous craignaient. Voilà, face à cette équipe très solide, c'était trop compliqué d'en venir.
Voilà, trop compliqué, c'est bien, il ne s'est pas focalisé sur l'arbitrage, Philippe Audouin, Éric Roy, il avait réussi à se calmer avant de venir en conférence de presse. je reviens à ces histoires d'arbitrage. J'ai vu par exemple un Del Castillo, qui est vraiment le joueur phare en ce moment du côté brestois, et on l'a vu très très bon lors des derniers matchs. Aujourd'hui, il a été plus en difficulté, Philippe, et notamment, il y a eu 2 fautes sur lui, avec des accrochages, des duels, où il y a eu des petits coups de coude, des choses comme ça. Par 2 fois, Del Castillo a roulé par terre, en
se tenant le visage, voilà. Et en fait, quand tu regardes les ralentis, je dis pas qu'il y a pas de faute, mais en tout cas, à aucun moment on touche son visage. Donc, est-ce que les Brestois sont pas rentrés dans un faux combat et n'ont pas joué au foot en fait? Vraiment, j'ai pas reconnu Brest, moi.
Et c'est peut-être aussi quelque part un aveu d'impuissance hein, quand on arrive à ce genre d'attitude. Et c'est vrai que Brest nous avait pas forcément habitué à ça. En tout cas, on était plus frappé par la qualité du jeu brestois depuis le début de la saison. Et dans ce match-là, c'est vrai que on a senti quand même les Bretons bloqués offensivement, pas avec l'inspiration habituelle. Peut-être qu'il y a eu également. On a posé la question d'ailleurs à Eric Roux en conférence de presse. Est-ce qu'il n'y a pas eu une mauvaise gestion de l'après-Lyon cette semaine, avec un sentiment de persécution qui finalement a fait que les joueurs n'avaient pas bien géré ces sentiments-là aujourd'hui pendant le match? Eric Roux, il a pas trop embrayé dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'il faudra quand même se poser la question pour les quatre dernières journées, parce que il y aura encore des beaux combats à livrer pour Brest, à commencer par dimanche à Rennes.
Et c'est ça, un déplacement à Rennes qui va être très compliqué. Bon, après, je regarde le classement, hein. Brest a quand même 6 points d'avance sur Nice, 5e. Donc la Ligue des Champions, même éventuellement avec le tour préliminaire, si ça devait mal se passer. Mais il n'y aura pas de soucis.
Ce qu'il faut se dire, c'est quand même que ce qui peut arriver de pire à Brest, c'est de finir 4e. Donc c'est quand même extraordinaire. Bien sûr. On avait dit ça l'été dernier à Brest, mais ça aurait été absolument fabuleux. Donc il n'y a pas de pression à se mettre, et donc les joueurs, ce sont des compétiteurs, c'est normal, mais les joueurs n'ont pas non plus à perdre leurs moyens parce que finalement ils sentent que ça leur échappe.
Mais c'est des hommes, ces joueurs-là, qui ne sont pas forcément habitués à jouer les premiers rôles, même pas du tout. Je pense qu'effectivement on sous-estime aussi cette défaite face à Lyon, 4-3 avec cette remontée lyonnaise, ce match complètement fou. Alors du côté de Lyon, ça galvanise, il y a un enthousiasme fou et on passe une semaine merveilleuse. Du côté de Brest, on pleure littéralement tous les jours de la semaine jusqu'à aujourd'hui dimanche, et ça a laissé des traces d'un point de vue humain, au-delà de footballistique, ça c'est sûr et certain.
Vous avez complètement raison, et je pense qu'on sous-estime aussi l'absence de Pierre Lesmelou et de Brassier, qui sont deux joueurs prépondérants dans la saison brestoise. C'est-à-dire que Brassier, on parle beaucoup de Chardonnay, mais c'est lui qui fait sans doute la meilleure saison défensivement.
Qui était d'ailleurs contisé par Monaco, Mercato d'hiver.
Non, mais il fait une saison remarquable, Brassier. Il équilibre beaucoup de choses, il rassure, et Lesmelou, dans sa créativité, dans son volume, il a une importance aussi indéniable.
Et il faut quand même noter que Brest, qui avait quand même l'une des toutes meilleures défenses de Ligue 1, a encaissé 8 buts sur les 3 derniers matchs. Donc au-delà de l'absence de Brassier aujourd'hui, il y a quand même un effritement sur ce plan-là qui est notable.
Et puis face au gros aussi, sur les deux derniers, parce que tu prends exactement le match contre Lyon et là.
Et puis défaite face à Monaco, défaite face à Lyon, défaite face à Lens aussi un petit peu plus tôt. Et je pense qu'il y a aussi un peu de frustration de la part des joueurs, même si effectivement être quatrième dans le pire des scénarios, c'est extraordinaire. Quand on a la Ligue des Champions dans la tête depuis le début de saison et qu'on est matraqué avec ça, à un moment donné, on est déçu.
À l'inverse, Monaco, qui était extrêmement perméable défensivement, devient de plus en plus solide. Alors en se créant quelques frayeurs. Alors c'était plus le cas contre Rennes que contre Brest cet après-midi, parce qu'encore une fois, Maïeki, moi je le vois même pas faire un arrêt. Il y a 2 tirs cadrés, mais je vois pas d'arrêt décisif de Maïeki, donc il a pas été mis en danger. Il y a cette défense à 3 qu'a évoqué Eric Roy. Il y avait le choix de Salisu aussi à gauche parce que Jacob s'était absent et Ouattara est peut-être trop offensif. On a fait jouer Diatta. Les coups tactiques d'Adi Hütter se sont révélés payants. Cette équipe de Monaco, même si elle a été un peu bougée dans la deuxième partie de la première période, Philippe, elle a été extrêmement cohérente, notamment le duo la Zakaria Fofana au milieu, Akliouche encore très actif. Une belle équipe de Monaco, cohérente en tout cas.
Monaco avait bien préparé son affaire, hein. Eric Roy a bien, on l'a entendu d'ailleurs dans ce qu'il a dit, avait bien ciblé le jeu brestois en renforçant l'axe de la défense pour contrecarrer le jeu de tête de Steve Mounier, qui était redouté par Adi Hütter. Et je trouve qu'effectivement Monaco a affiché beaucoup je n'irai pas jusqu'à dire de la sérénité, mais en tout cas beaucoup de solidité au-delà de la maîtrise technique qui a été palpable également sur ce match-là. Et puis ça confirme quand même la dynamique actuelle. Ça fait 5 victoires et 2 nuls sur les 7 dernières journées, sur les 2 derniers mois pour Monaco. Je me souviens que Monaco s'était littéralement effondré la saison dernière et avait tout perdu dans la dernière ligne droite. Là, c'est absolument l'inverse qui est en train de se passer, et avec une deuxième place qui désormais tend les bras aux Monégasques.
Et notamment à l'extérieur, où ils n'ont plus perdu depuis le mois de novembre, les Monégasques.
Exactement, oui.
À domicile, ça va un tout petit peu mieux. Il y a eu la victoire contre Rennes. Il va y avoir ce match contre Lille, match en retard mercredi, qui va être crucial. Si Monaco ne perd pas contre Lille, la voie directe pour la Ligue des Champions champion semble vraiment tout tracé. Ouais. Voilà. Après, le retour d'Embolo aussi, qui va apporter une solution en plus de Balogun et Ben Yedder devant. Il a joué quelques minutes, Brel Embolo, le Suisse qui a été longtemps blessé avec les ligaments croisés. On l'écoute, tu l'as rencontré, Philippe Audouin. Ses premiers mots pour son retour sur le terrain, il a joué vraiment que quelques minutes.
On voulait gagner, on passe deuxième. Un match qui n'était pas simple. Mon public qui était chaud, ils ont bien commencé. On a su les calmer au bon moment, je dirais. Défensivement, on était très très fort et offensivement, c'est un peu mieux. Mais aujourd'hui, c'est sûr que les trois points nous font énormément du bien et on continue de se lancer.
Ils auraient évidemment signé les Monégasques. Le seul point noir, c'est les deux cartons rouges de Ben Seguir qui s'est fait un peu avoir par Magnetti, qui l'a un peu chauffé. Et Ben Seguir a une réaction qu'il ne doit pas avoir, évidemment, et logiquement expulsé pour avoir complètement balancé par terre Magnetti. Et puis Singo, en toute fin de match, c'est plus difficile à comprendre, Xavier.
Oh, c'est impossible à comprendre.
Il y a une faute de Le Doiron. Enfin, en tout cas, Singo est à terre, il rentre dans Maïeki. Et Le Doiron veut le relever vite pour qu'il ne gagne pas du temps. Singo a un petit réflexe du pied, mais il ne lui donne pas de coup de pied non plus. Et là, il prend un rouge direct.
Il a un mauvais geste qui n'est pas si méchant que ça. Alors, si Rudy Buquet, qui est censé quand même avoir un peu d'expérience, se met à manquer de psychologie autant que ça, ça va être compliqué quand même. Hein,
le mauvais geste avec Il est léger,
Philippe.
Il ne touche pas vraiment.
Et en plus, Le Doiron n'a pas allé le relever comme ça. Eh ben oui, mais.
D'accord. Le rouge direct, franchement, le rouge
peut-être,
direct.
Peut-être, mais moi, je trouve que le geste de diriger. De vouloir donner un coup de pied au visage parce que
de donne pas un coup de pied Philippe
de vouloir j'ai bien dit Eric
il a un réflexe d'écarter le joueur avec sa jambe,
c'est l'intention, voilà, c'est ce que je veux dire.
Peut-être que je l'ai pas bien vu, mais en tout cas oui, moi je trouve que l'intention, faut pas juger que la conséquence. C'est pas parce qu'il a raté le visage qu'il aurait pas pu le toucher.
Il était bien loin.
Ouais, mais alors je suis d'accord,
peut-être je l'ai pas bien vu.
À l'arrivée, il y a Magnetti qui chauffe Ben Seguir. Il prend jaune et Ben Seguir prend rouge. Il y a Le Doiron qui va relever.
Ben Seguir est pas malin du tout, parce que là, pour le coup, il peut s'en prendre qu'à lui-même.
Il prend le rouge, c'est tout à fait normal. Le Doiron qui va relever Singo, alors que c'est pas du tout son rôle, il le prend par le bras, il le relève quand même bien énergiquement. Il prend jaune aussi. Ouais. À l'arrivée, si tu prends deux ou trois matchs de suspension alors qu'il reste que trois matchs.
Ah oui, mais
Moi, je trouve que Ben Seguir, il se pourrit sa fin de saison.
Tu vois, on a tous dit que Lesmelou, c'était sévère le carton rouge. Ouais. Et il était sévère. Ouais. Suite Singo, excuse-moi, parce il ne sera évidemment pas retiré. Il est sévère aussi.
Ben Seguir, il est en train de se pourrir sa fin de saison parce qu'il a été blessé très longtemps. Il revient. Golovin est blessé. Oui. Il avait l'opportunité de se montrer, de finir fort. Là, il va prendre au moins trois matchs parce que ce genre d'attitude, le geste, on n'aime pas. Donc, je pense qu'il va au moins en prendre deux. Moi, je pense qu'il sera plus 3, mais voilà, c'est Monaco quand même. Eric Roy l'avait dit, quand on regarde l'effectif de Monaco, en dehors du PSG, c'est quand même très très fort. Parce qu'on vient de parler des absents, notamment Golovin, tu as la chance d'avoir des joueurs de talent, Akliouche qui fait un match de très haut niveau aujourd'hui. Et en fait, ils arrivent toujours à compenser ça. Et tu as parlé de quelque chose de très important. Aujourd'hui, c'est peut-être les deux meilleurs, la meilleure paire à la récupération qui est Zakaria Fofana. C'est très très fort, c'est complémentaire. Et voilà, Monaco a un effectif de grande qualité. Et on s'en rend compte, à 18h, fait jouer beaucoup de joueurs différents aussi. Hein. Donc c'est vraiment un groupe qui est mobilisé et ça marche très bien.
Je voudrais juste vous faire écouter ce qu'a dit Youssouf Fofana, le capitaine de cette équipe de Monaco, international français, à propos de l'arbitrage. La question lui a été posée sur les deux cartons rouges chez nos confrères de Prime. Non, mais je trouve sa réponse intéressante parce que vous écoutez bien ce qu'il dit.
On reverra les images, c'est un peu, je suis pas assez lucide pour en parler, mais voilà, si l'arbitre a vu les images, c'est qu'il y a peut-être sûrement eu quelque chose ou contact ou je sais pas, mais voilà, ce que j'aimerais dire, c'est que sur ce genre de match là, je pense que le corps arbitral devrait avoir plus de recul parce qu'on joue les places de haut de tableau et on est un peu plus sur les nerfs qu'habituel en fait.
Voilà, il reconnaît.
Extraordinaire.
Et oui, je trouve que c'est intéressant. Il dit, évidemment qu'on est tendu, qu'il y a beaucoup d'enjeux et tout ça. Peut-être qu'un tout petit peu plus de pédagogie, de philosophie, un peu moins de cartonite. Et M. Buquet avait plutôt bien tenu au niveau des cartons pendant un bon moment. Et puis à la fin, c'est parti un peu.
C'était pas un match facile à arbitrer.
Voilà, il a plutôt bien tenu.
Ce qui est très bien, c'est déjà la première partie de sa réponse qui est d'une maturité exemplaire. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, j'ai pas de lucidité, je sors du match. Et juste avoir l'humilité de dire, voilà, je peux pas vous décréter et dire qu'il y a faute ou pas faute, etc. Je trouve ça très bien. Et puis surtout, il pointe le cœur du problème, ce qui est le problème de sensibilité, en fait, de lecture, de vraiment de sensibilité, en fait, c'est le mot pour moi. Et il a tout dit. Les arbitres doivent prendre en compte
encore
ça.
Encore une fois, Ben Seguir sur le rouge est totalement logique. Oui, mais Singo, je pense qu'il aurait pu éviter. Voilà. Après.
Non, mais surtout que encore une fois, Rudy Buquet, c'est un arbitre d'expérience. Je veux dire, c'est pas le premier venu qui peut comme ça perdre le fil parce qu'il sent que c'est électrique, il sent qu'il y a de la tension. C'est vrai. Fofana a raison d'insister là-dessus. Brest-Monaco, c'est quand même un match très important. À Monaco, il y a des investissements qui sont faits, il y a cette envie d'aller chercher la Champions League. C'est niveau budget, niveau retombées financières, c'est quand même pas la même chose. Et donc, c'est normal qu'il y ait de la tension, de la nervosité comme ça dans la dernière ligne droite quand il reste 4 journées, 4 matchs.
Je veux bien qu'on pointe l'arbitre du doigt, mais enfin bon.
Non, on pointe pas l'arbitre, on dit qu'il soit.
Non, mais dans la manière de gérer les choses, Philippe, voilà. C'est simplement ça. C'est qu'on les sent toujours un peu excités.
J'ai pas trouvé que c'était l'attitude de M. Buquet aujourd'hui. Je l'ai pas trouvé excité.
Ouais, mais là, il sort le rouge très vite, en fait.
À la fin,
il. C'est ça le problème, c'est que. Tu vois, s'il lui met dans le visage le coup de pied, évidemment, la question se pose pas. Il y a l'intention, mais le pied est quand même très loin du visage. Je pense qu'il se rend compte de sa bêtise trop tard, parce que le geste ne doit pas exister. Hein. Là, je suis complètement d'accord avec Philippe. Le geste ne doit pas exister. Il est condamnable.
On a tous joué au foot quand on est à terre et qu'il y a un mec qui vient te relever et qui est même pas un mec de ton équipe. Le premier réflexe que t'as, c'est de me dire lâche-moi, t'occupe pas de moi, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est
comme Pierre Desmélou la semaine dernière, c'est pareil. Hein.
Oui, mais alors on a dit que Pierre Desmélou, le carton rouge n'était pas normal, donc celui-là n'est pas normal non plus.
Bien sûr. Vrai problème de sensibilité.
On va pas faire une heure là-dessus, mais voilà.
Après, Desmélou, c'est même pas ça. Hein. Desmélou, il essaie de se retourner un peu énervé. Franchement, il était sûr d'ailleurs qu'on allait lui retirer le rouge, ça n'a pas du tout été.
Ah oui, ils sont venus avec avocat de Brest, etc., en commission de fin.
Il aurait dû être retiré.
Ils vont en retirer.
Ah oui, mais là-dessus, c'est la commission.
Philippe, rendez-vous dimanche prochain, Rennes-Brest, il va valoir cher celui-là aussi.
Oui. Et pour Monaco, il y a un match à venir qui est très important également. Mercredi.
Tout à fait.
Monaco-Lille.
Mais tous les matchs sont importants, les amis, peu importe les adversaires.
Monaco-Lille. Ce Brest-Monaco, il pouvait être décisif en cas de victoire de Brest, très clairement, pour les 4 premières places, 3-4 premières places. Et le Monaco-Lille, il devient de la même manière.
Et il devient très important pour Brest, parce que si Lille gagne à Monaco, les deux équipes seront passées devant Brest.
Parce que là, Monaco a 2 points d'avance sur Brest et 3 sur Lille.
C'est exactement la réflexion.
Monaco peut se détacher ou remettre Lille et mettre Brest dans la panade. Donc c'est vrai que c'est un match qu'on va suivre avec beaucoup d'intérêt mercredi. Merci Philippe. Et bon retour vers chez toi du côté de Nantes. Il y a un peu de route à faire.
Où il fera un peu moins froid qu'à Brest cet après-midi.
Il faisait froid, mais il y avait du soleil.
Alors les images sont trompeuses parce que là
il y avait du vent.
La température ressentie en haut de la tribune de l'Oblé avec le vent, c'est quelque chose.
On parlait de Rennes-Brest, il y aura un Brest-Nantes aussi, je crois, bientôt.
Oui, exact. Ce sera un vendredi soir. Le Brest-Nantes, c'est le samedi soir. Il y aura un autre match à Brest un vendredi soir un peu plus tard. Donc, on va se retrouver ici à l'Oblé.
Avec grand plaisir. Nous, on marque une courte pause. On va évoquer la lutte pour le maintien également, faire un point sur Toulouse-Marseille. Il se passe pas grand-chose. Un partout, toujours entre les deux équipes.
Tout à fait.
Pour l'instant, à 20 minutes de la fin. Et puis, direction le parc pour PSG-Lyon à 21h.
RTL Foot, présenté par Eric Silvestro. Suivez votre soirée foot sur RTL avec Winamax.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RTL.
On en parle.
La complémentaire santé solidaire vous aide à payer vos dépenses de santé. On en parle avec Fanny Richard, directrice de l'intervention sociale et de l'accès aux soins de l'assurance maladie. Bonjour.
Bonjour.
Alors, à qui est destinée la complémentaire santé solidaire ?
Eh bien, à toute personne ayant des revenus modestes. Mmh. En fonction de vos ressources, elle ne vous coûte rien ou jusqu'à 30 euros maximum par mois selon votre âge. Mmh. Avec la complémentaire santé solidaire, vous ne payez plus chez les médecins généralistes, les spécialistes, à l'hôpital et dans la plupart des cas, les lunettes, les prothèses dentaires et les prothèses auditives.
Très bien. Mais alors comment savoir si on y a droit ?
En utilisant le simulateur d'Amélie.fr. Il ne faut vraiment pas hésiter à vérifier, car vous êtes encore 3 millions de personnes à y avoir droit sans le savoir.
Merci.
Pour vérifier votre droit à la complémentaire santé solidaire, rendez-vous sur Amélie.fr. Alex Vizorek ?
Je suis quand même un peu le Kylian Mbappé de la blagounette. J'ai rien contre Philippe Cavrivière, qui serait plus, je dirais, le Olivier Giroud.
Ou Philippe Cavrivière ?
Ça fait nom d'antibio, Vizorek. Si vous auriez pas 2 boîtes de Vizorek, j'ai un début d'angine.
Que vous soyez du matin ou du soir, l'humour, c'est sur RTL.
RTL Foot.
Présenté par Eric Silvestro.
Avec toute l'équipe de RTL Foot, Baptiste Dieu, Xavier Domergue, Nicolas Jean-Jouraud au Parc des Princes pour le coup d'envoi de PSG Lyon. Dans une quinzaine de minutes, on continue notre replay des matchs de l'après-midi. On a beaucoup parlé de Brest-Monaco. C'était l'affiche. Évoquons rapidement également la victoire de Lille face à Strasbourg. 1-0, le 17e but cette saison de Jonathan David. Lille qui a fait le boulot, hein, en maîtrise contre Strasbourg. C'est quand même fait un petit peu peur en fin de match. Ils parce qu'ils n'avaient pas fait le break, les Lillois. L'important, c'est là, les 3 points, la pression sur, sur Brest et sur Monaco. Non, mais autant la première mi-temps était maîtrisée, autant la deuxième, voilà, un peu.
Non, mais à l'image de Monaco, ils finissent très fort la saison. Je crois que c'est une 3e victoire consécutive pour Monaco, 3e victoire consécutive aussi en championnat pour le LOSC. Bon, c'est pas évident d'avoir à digérer comme ça aussi rapidement l'élimination parce qu'ils ont frôlé quand même l'exploit face à Aston Villa. Bon, ça se termine, on le sait, à l'issue de la séance de tir au but. Ça s'est bien fini pour les Marseillais, un peu moins pour les Lillois, malheureusement. Mais il faut réagir, hein, quelques jours après, avec Cabella qui est passeur décisif, qui profite, c'est vrai, d'une erreur de la défense strasbourgeoise, mais qui est passeur, qui a moins de temps de jeu depuis quelques mois. Mais quand Paulo Fonseca fait appel à lui, il répond présent. Passeur pour Jonathan David, et c'est un petit but, comme souvent, de Jonathan David qui suffit au bonheur des Lillois. C'est une équipe très cohérente, très sérieuse, solide, qui concède peu d'occasions, je trouve, et qui a été moins flamboyante offensivement aujourd'hui, mais ça peut leur arriver aussi.
Écoutez Jonathan David, justement, chez nos confrères de Prime Video, après ce succès 1-0 contre Strasbourg.
On était déçus jeudi, mais on savait place à autre chose maintenant. Il reste 5 matchs à partir de maintenant. On savait que c'est tous des matchs qui restent, qui sont importants. Et aujourd'hui, on savait que c'était très important de gagner. Vu le match qu'on a fait, c'est difficile d'être trop content, même si on prend les 3 points. Je pense qu'on s'est fait très peur dans le match. Il y a eu beaucoup de déchets, on aurait pu être beaucoup mieux.
Hey, ils auraient pu être mieux, les Lillois, mais ils ne l'ont pas été.
J'ai l'impression d'entendre Benjamin Moukandjo. Non mais c'est terrible, je trouve qu'ils parlent quasiment pareil, ils ont la même voix. Là j'étais en train d'écouter, je me dis c'est pas possible, mais vous savez, on a de la chance quand même dans notre métier parfois de croiser sur des terrains de foot comme ça d'anciens joueurs, et c'est vrai que j'ai de la chance de jouer parfois avec Benjamin Moukandjo la semaine, le lundi ou le jeudi.
Légende.
Et du coup là quand il me parle, j'entends Jonathan David, j'ai l'impression que c'est lui.
Il a pas l'accent canadien, hein, Jonathan David.
Non,
c'est assez étrange.
C'est bien Jonathan David avec son 17e but de la saison. Autre match important, je voudrais qu'on évoque rapidement, c'est quand même le Havre-Metz de cet après-midi. Match de bas du tableau ô combien important, et c'est Metz qui l'a emporté après l'avoir emporté à Lens. Eh bien Metz s'est imposé au Havre 1-0, encore un but de Miko Tadze. Depuis son retour, il en est à 8 buts, il en a marqué 10 au total, dont 8 depuis son retour au mercato d'hiver. Il a apporté 15 points au FC Metz depuis son retour. Ça a été un tout petit peu compliqué les 2-3 premières semaines, mais depuis c'est vraiment l'homme fort de Metz. Et pour le Havre, la dégringolade est terrible. Ils ont passé les deux tiers de la saison entre la 8e et la 12e place, et les voilà désormais mais barragiste avec 28 points, de longueur seulement devant Lorient. Et pour Metz, donc, c'est une sortie de la zone rouge. Logique sur ce qu'on a vu sur ce match, des dynamiques qui sont vraiment en train de s'inverser.
Là, c'est 9 défaites pour le Havre sur les 11 dernières rencontres, si je me trompe pas. C'est fou parce qu'on en parlait plutôt positivement. C'était pas la sensation, mais c'était plutôt une belle surprise en début de saison avec Lucas Alistin notamment et Mathieu Bodmer qui œuvrent à la direction sportive.
Et
c'était
qui ont prolongé, on rappelle. Hein.
Et qui ont prolongé, absolument. Mais ce qui est très bien. Il y a pas une dictature du résultat au Havre, mais néanmoins les voir aujourd'hui à cette place-là, compte tenu de vraiment cette saison plutôt enthousiasmante qu'ils avaient commencé en début d'exercice, c'est extrêmement inquiétant. Moi je ne retrouve plus le Havre qui était plutôt solide défensivement. Alors en Ligue 2 ils avaient été champions et la défense était vraiment une défense de fer. Là c'était un peu plus fragile, mais néanmoins il y avait beaucoup de choses offensivement, il y avait aussi une équipe qui était assez cohérente, il y avait beaucoup de buteurs différents, une équipe qui tournait bien, un effectif qui marchait bien, Lucas Lesnar qui avait des idées, qui les mettait en place, et on sentait vraiment un club qui était bien structuré, qui fonctionnait bien. Et puis là en fait c'est juste la dictature du résultat, quoi. C'est absolument terrible, et de les voir là comme ça, c'est tellement inquiétant et décevant.
C'était une vraie finale, hein. Il faut pas se le cacher, pour Metz toutes les rencontres ressemblaient à des finales sur la dernière ligne droite. On rappelle quand même la victoire précieuse face à Lens, c'est pas rien, même si Lens a été très très moyen, et c'est peu de le dire, lors de cette soirée là tu fais quand même 2 victoires consécutives contre Lens et le Havre, qui est un concurrent direct. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et tu l'as dit, Miko Tadze, les joueurs qui sont au-dessus, dans ces cas-là, tu le vois. Et Miko Tadze, depuis qu'il est revenu, il a eu du mal, c'est vrai, beaucoup de mal à enchaîner. C'est toujours le petit souci de confiance pour un attaquant. Et on se dit, dès qu'il va retrouver le chemin défilé, derrière, il va...
Après, il avait été très bon en Ligue 2.
Oui.
Avec, là, c'est pas pareil.
Ouais, mais c'est ce qui s'est passé, parce que dès qu'il a... ce premier but, lui, le fuyait depuis un moment. Dès qu'il a réussi à le mettre, là, depuis, c'est 5 buts, je crois, sur les 3 derniers matchs.
C'est ça.
Il met un but aujourd'hui, il offre la victoire aux Messins. Voilà, les joueurs importants, les joueurs qui sont au-dessus, tu le vois dans ce genre de moment.
Et juste, le calendrier du Havre est absolument terrifiant, je vous le donne. Match face au Paris Saint-Germain, réception de Strasbourg, et ensuite déplacement à Nice et réception de Marseille. Donc là, la fin de saison pour le Havre, c'est soit un miracle, soit ça peut être une catastrophe absolue. Après,
on parlait de, tu parles du calendrier du Havre, t'as raison de le rappeler. Moi, je vais rappeler celui de Metz, qui reçoit Lille, qui reçoit Rennes, qui va à Strasbourg et qui reçoit le Paris Saint-Germain. Donc sur les quatre derniers matchs, il y a trois rencontres à Saint-Symphorien. On connaît l'ambiance et l'importance, bien sûr, du public des Grenats, mais tu joues à la maison sur ces trois matchs, Lille, Rennes et le PSG. Ouais. Donc même si Rennes
fait
une saison vraiment moyenne aussi, bon, c'est gros calendrier également.
Hein. Allez, on écoute Georges Mikotadze chez nos confrères de Prime Vidéo après son huitième but, donc depuis son retour à Metz. Et dans la foulée, on écoutera Lucas Elsner, le coach havrais, Metz qui a fait la bonne opération en s'imposant à 20-0.
Épuisé, voilà, on a tout donné. On savait que si on gagnait cet après-midi, on passait devant eux. On sort de ces places qui sont synonymes de Ligue 2 ou de barrage. Ça fait du bien. Voilà, c'est ce qu'on attendait depuis un long moment. Voilà, prendre 3 points aujourd'hui, ça nous fait énormément de bien et on est tous très contents.
Les Messins qui vont se battre, évidemment. C'est aussi le cas des Havrais, même si Lucas Elsner a pesté un petit peu après cette rencontre.
Oui, on doit être inquiet. On descend petit à petit au classement. On livre des matchs, des bouts de matchs intéressants, mais il n'y a pas les points qui suivent. Il nous manque une réussite un petit peu générale. On a tapé beaucoup de fois les poteaux et les transversales, mais ce sentiment de se raccrocher à la réussite, c'est peut-être trop peu. Je pense que le but qu'on encaisse au retour de la mi-temps, il est interdit. La manière dont on l'encaisse, avec une énergie qui est trop faible, avec peu de couverture, avec voilà, un désintéressement, j'ai envie de dire, et ça, c'est interdit dans des moments comme ça. Et donc, on va essayer de rectifier ça, et puis encore une fois, de s'accrocher à cette lueur d'espoir qui existe, parce que nous ne sommes pas morts. Et on est passé par beaucoup de phases difficiles l'année dernière également, et on y est de nouveau cette année. C'est en se maintenant dans le combat qu'on peut y arriver.
Voilà, on aura un match à 4, hein, sans doute, même si Clermont n'est pas mathématiquement condamné. Lorient, Le Havre, Metz et Nantes, toutes ces équipes se tiennent en 5 points. Même Nantes n'est pas à l'abri après la défaite à la Beaujoire face à Rennes. Voilà, on a un relégué et un barragiste parmi ces 4. Ça va être une bagarre jusqu'au bout, Xavi.
Oui, le timing, Lucas Elsner le disait, le timing, il est... mais dramatique pour le Havre, c'est-à-dire qu'ils ont toujours été dans le cœur du classement, en milieu de tableau. Alors c'est vrai qu'il y a une descente, Baptiste le disait très justement, tu perds 9 de tes 11 derniers matchs, c'est problématique, tu ne cesses de dégringoler, et là tu te retrouves pour la première fois dans cette zone rouge cette saison, alors que Metz y a été habitué malheureusement, et Metz en fait si s'accroche avec des choix payants, je trouve, de la part de Laszlo Bologna, qui est revenu à une défense à 4, qui a mis 3 joueurs au milieu, qui travaillent beaucoup plus, peut-être moins joueurs qu'un Lamine Camara, par exemple, qui avait réussi un très bon début de saison, mais qui ne joue plus. Il fait des choix de plutôt de guerriers. Et ces choix de guerriers sont en train de fonctionner. Côté Havrais, on sait que Lucas Elsner est un coach qui aime le jeu. Il va peut-être falloir trouver autre chose sur la fin de saison, trouver une équipe un peu plus solide, un peu plus solidaire.
Et ils ne marquent plus de buts, les Havrais, c'est leur gros problème. Voilà pour les replays des rencontres de l'après-midi. On marque une très courte pause avant l'entrée des Lyonnais et des Parisiens sur la pelouse du Parc des Princes. Match en intégralité à partir de 21h avec Nicolas Jean-Geroy. Tout de suite.
RTL Foot, présenté par Eric Silvestro.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie? RTL. Tout savoir sur les élections européennes avec le gouvernement. Thomas, bonjour, vous avez interrogé un spécialiste de l'Union européenne, alors pourquoi on vote concrètement en juin prochain?
Pour élire les 81 représentants français qui siégeront au Parlement européen ces 5 prochaines années.
Et à l'issue de ce scrutin à un seul tour?
Eh bien, chaque liste qui obtient plus de 5% des suffrages se voit attribuer un nombre de sièges proportionnel.
D'accord, et on vote quand?
Le 9 juin. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur elections.intérieur.gouv.fr.
Merci.
Ceci est un message du gouvernement.
Éric Silvestro,
RTL Foot.
Allez, juste avant d'aller au Parc des Princes, il y a un but à Toulouse, entre Toulouse et Marseille. Baptiste Durieux, Xavier Demers est en train de nous dire « j'ai peur que l'OM craque ». Eh bien, c'est le cas, il est fort ce Xavier.
Il est très très fort. Non, un magnifique moment de la part de Toulouse, une longue transversale pour alerter Soiseau qui sert magnifiquement Gbo, qui finit très bien, pied gauche, frappe en puissance pour marquer dans les buts de Paulo Lopez. Ça fait 2-1 pour le TFC face à l'Olympique de Marseille, 82e minute de jeu, et des conséquences évidemment sur le classement, puisque Toulouse revient à hauteur de Marseille en termes de points. Marseille reste 10e, Toulouse 11e grâce à la différence de but, mais néanmoins c'est 39 points. Et Marseille du coup qui se fait distancer assez largement par rapport aux places européennes, notamment Racing Club de Lens qui est à 46 points et à la 6e place.
Ouais, 39 points pour les deux équipes, ça va être très compliqué pour l'OM de revenir dans cette fin de match. On sait l'effectif limité de l'OM dans cette rencontre. Ils avaient mené au score, mais c'est pas suffisant.
Et potentiellement, hein, c'est pas fini, 90e minute de jeu, 4e défaite consécutive en Ligue 1 pour les Marseillais si le score en reste là.
Et 2-1 pour Toulouse, donc ça va peut-être faire les affaires de Lyon, Nicolas Jeanjereau, au Parc des Princes, dans cette lutte pour la 7e place qui sera peut-être qualificative pour les Coupes européennes en cas de victoire du PSG en finale de la Coupe de France. Les Lyonnais et les Parisiens qui sont arrivés sur la pelouse.
Oui, avec un très très beau tifo au Parc des Princes. Les choses simples sont assez souvent les meilleures.
C'est ce qu'a dit Enrique après le match retour contre Barcelone.
le blason du club dans le virage Auteuil, avec le collectif Ultra Paris, et puis avec les couleurs du club en tribune Paris, un énorme PSG qui s'est affiché dans ce Parc des Princes avec ces deux équipes. Eh bien, à la fois l'équipe fortement remaniée du Paris Saint-Germain, une équipe ambitieuse, offensive de l'Olympique Lyonnais. Et effectivement, l'OL est 8e au coup d'envoi de cette rencontre. Si le score en reste là entre Toulouse et Marseille, autrement dit, il n'y a qu'une équipe devant eux avant la 6e place. C'est intéressant, évidemment, en cas de très bons résultats pour ces deux formations. C'est le match d'après. Lyon, après ce match dingue face à Brest dimanche dernier, et le Paris Saint-Germain après cette qualif pour une demi-finale de Ligue des Champions. Et de finalement être dans la capacité de rebondir, donc pour de continuer en tout cas pour ces deux formations après ces beaux succès. Les Parisiens qui s'encouragent avec notamment Donnarumma qui vient voir Danilo. Les Lyonnais sont en place. C'est un OL extrêmement ambitieux, on l'a dit, avec notamment Cherki qui est titulaire, qui sera en soutien de la Lacazette.
Et c'est la nouvelle star de l'arbitrage, un Français qui va arbitrer cette rencontre.
François Le Texier.
Monsieur Le Texier, c'est un peu
le number one.
L'homme à la mode, le number one de la saison.
Tout à fait.
Oui, c'est considéré comme le numéro 1 français aujourd'hui. Et donc.
Qui a fait un très bon match en Ligue des Champions d'ailleurs.
Oui, absolument.
Real City.
Oui. Absolument. Oui, oui, oui. Et Dieu sait que c'est pas évident. Oui.